Merci à vous tous d'être présents ce soir. C'est un grand honneur pour la librairie Mola ainsi que pour moi-même de recevoir Michel Deguy, qui est un très grand poète français. Alors, Michel Deguy vient de publier un recueil qui s'intitule « La vie subite », avec pour sous-titre « Poème » au pluriel, « Biographème », Théorème, aux éditions Galilée. Et il a publié aussi, aux éditions Argol, un livre, disons, un peu biographique, qui s'intitule « Noir, impair et manque, dialogue avec Bénédicte Goriot ». D'autre part, je peux signaler qu'on trouve aux éditions Gallimard, Poésie, Gallimard, deux volumes. Ce sont des anthologies de poèmes. Le premier qui s'intitule « Donnant, donnant, poèmes 1960-1980 » et l'autre qui s'intitule « Comme si, si, comme ça, c'est dit à, poèmes 1980-2007 » qui offre la possibilité de lire des poèmes de Michel Deguy sur une période, enfin sur toute sa période d'écriture.
Moins dix ans,
puisqu'on s'arrête là en 2007, effectivement. Moins dix ans. Michel Deguy est venu à plusieurs reprises à la librairie Mola, notamment avec Jean-Pierre Moussaron, qui était un ami personnel, et aussi avec Martin Rebeuf, qui a écrit un très beau livre sur la poésie de Michel Deguy. Et il se trouve que Michel Deguy était un grand ami de Jean-Marie Pontevia, qui a été mon maître en philosophie, ainsi que le maître de Jean-Paul Michel. Voilà. Alors, ma première question porte sur ce volume de poésie récente, donc, qui s'intitule « La vie subite, poème, biographème, théorème ». Oui. Pourriez-vous expliciter ce titre ?
Oui, je peux toujours. Alors, biographème, c'est peut-être même un néologisme, je ne sais pas. En tous les cas, comme il y a une partie du livre, qui est à peu près en trois parties, ou qui est plus nettement autobiographique. De toute façon, chacun écrit avec son expérience. Tout est biographique. Tous les poèmes sont de circonstances. Mais dans le biographème, c'est des proses, un discours que j'ai fait à Athènes, je ne sais plus quoi, enfin, on verra ça s'il y a lieu.
Oui, oui, oui.
Et donc, bien fait. Alors, la partie théorème, oh, disons, je vais insister sur la terminaison. Au fond, ce qui compte là-dedans, c'est M,
oui.
Émique. Hein. Mythologème, philosophème, théologème,
mais poème aussi.
Poème. Et j'entends dans poème la terminaison qui est celle de philosophème, théologème. C'est intéressant de mettre. Autrement dit, ça serait l'unité ou l'élément. Vous savez, Lévi-Strauss a introduit les mythèmes, c'est-à-dire la reconstruction, l'analyse des mythes aboutissait à des compositions, des variantes et des assemblages de mythèmes. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que j'entends aussi poème. De quoi est fait un poème ? Bon, voilà, c'est tout. Par ailleurs, c'est une manière de dire aussi, pour ceux qui connaissent un peu ce que je fais, le lien profond, c'est plus que lien d'ailleurs, on va en parler, les philosophies, poésie.
Oui.
Voilà. Vous voulez que j'en dise plus ?
Non.
C'est moins un petit peu au début.
Mais alors, aussi, pourquoi ce titre, La vie subite, alors ?
Ah ben,
la
ça,
vie, d'une part, et subite, d'autre part.
Alors, subite, c'est intéressant parce que c'est. On y entend à la fois le subi et le subitus. C'est-à-dire, si vous voulez, le volume précédent, celui-ci, dans la Collection Galilée, je l'avais appelé N'était le cœur. Bon. Alors, vie subite. Je vais partir d'un philosophème, d'une philosophe espagnole, Maria Zambrano, vous connaissez, qui est
oui.
Morte il n'y a pas très longtemps, qui est une grande, et qui a une phrase que je commande, je crois, là-dedans, en tous les cas, qui m'a beaucoup importé. Elle dit à un moment ceci qui est assez étrange. L'homme est l'être qui pâtit sa propre transcendance. Mmh. Alors, c'est intéressant parce que c'est une faute de français. En principe, pâtir n'est pas transitif. Mais elle parlait très bien le français. Et c'est, donc, pâtir, le pathos, la passivité, ce qui est subi. L'homme est l'être qui pâtit sa propre transcendance. C'est-à-dire, le mouvement que les philosophes... parlent seulement les philosophes, quand on parle de transcendance, où on se représente plutôt les choses comme, par exemple, selon la grâce... au sens catholique, c'est-à-dire qui vient d'en haut. Non, le renversement intéressant, c'est l'homme et l'être qui subit sa propre transcendance, qui pâtit, il est passible, passible. Voilà, j'ai d'ailleurs des poèmes là-dedans.
Oui, oui, oui.
Il y en a un qui s'appelle Passible, je ne sais plus quoi. L'homme est passible. Passible de quoi ? Passible de ce qui le soulève, hein, et que Baudelaire appelait l'élévation. Ça ne tombe pas du ciel. Ça me rappelle un passage du Don Juan de Molière, où le papa engueule Don Juan, et il lui dit, le père de Don Juan, lui dit pour lui faire peur, la grâce, il parle de Dieu, la grâce que l'on renvoie fraye un chemin à sa foudre. C'est vers la fin, il dit, ça va mal se passer pour toi, hein, parce que, donc la grâce, c'est un problème de tuyau, comme toujours, la grâce, les cadeaux, alors, là, il en parle comme ça. La grâce que l'on renvoie, donc suppose la grâce descendante, prévenant toutes la grande affaire du XVIIe siècle, la grâce pascale. Don Juan, la grâce du ciel que l'on renvoie, fraye un chemin à sa foudre. Par le même tuyau où tu renvoies la grâce est arrivée, ensuite tu la renvoies et la foudre tombe là. Bon, alors, c'est cette pensée-là qui est complètement modifiée de par la phrase « l'être qui... » pâtit sa propre transcendance, qu'il ne fait pas confiance. Ça, c'est pour. J'amorce par là des thèmes importants. C'est le rapport poésie-religion, poésie-philosophie, tout ça est important. Ça ne dit pas du tout la même chose. Hein, alors, la vie subite, ça veut dire ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans le subite, tout à coup, il y a l'événement, l'imprévisible. Et même pour ceux qui sont philosophes, ça peut aussi faire écho à la pensée terminale de Heidegger, c'est-à-dire l'Ereignis, l'événement, qu'arrive-t-il, que se passe-t-il? On peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, d'ailleurs. C'est le subit. Et en même temps, c'est le verbe, même si c'est... De toute façon, on vous dit, au moment où je suis en train de dire ça, je dis, attention, ça n'est pas une étymologie. Hein. La poésie fait ce qu'elle veut avec les mots, c'est-à-dire qu'elle donne à étymologie un sens tout à fait élargi, ne fait que des fausses étymologies, c'est-à-dire des vraies étymologies. Donc dans « subit », pour terminer sur cet embardé, il y a à la fois l'événement, l'irruption, l'imprévisible, l'inattendu, on peut l'appeler aussi, je n'hésite pas à l'appeler le hasard, autrement dit, pour placer aussi quelques aphorismes, disons, d'une certaine manière, pour un poète, rien n'est écrit. Hein, c'est là aussi, quand même. C'est pas tout est écrit, donc c'est rien n'est écrit, c'est pour ça qu'il faut écrire.
Tout à fait.
Alors, oui. Donc, dans le subit, il y a la passibilité, qui n'est pas exactement la passivité, même si c'est la même famille, pâtir, le grec pathestai, pathos, la sensibilité.
Être passible de.
Oui, être passible de. Après tout, nous sommes tous passibles, même si on est dans le sens, si vous voulez, au fond, de la justice, quoi. Passible, en autant, tu es passible de. 30 ans de tôle ou 90 ans de vie, ou parfois un peu moins, passible, et en même temps, le se lever comment, hein. D'ailleurs, il y a... Pour relier quand même, bien que ça... Je dis un petit mot sur la grâce, mais quand même, on va faire une petite liaison avec Pascal, parce qu'il y a une phrase magnifique de Pascal qui dit « L'homme passe... » Passé, on disait au XVIIe. L'homme passe infiniment l'homme. Mmh. Alors, si on entend cette phrase et qu'on ne la rapporte pas tout de suite à Dieu, ou au Dieu créateur, ça, on entend l'homme passe infiniment l'homme. Donc, la question de l'infinité de l'homme, et Dieu sait si ça se pose aujourd'hui, et que voilà, ce mouvement de passer ou de dépasser, c'est aussi un grand mot philosophique, mais là, j'entends le français du XVIIe siècle, l'homme passe infiniment l'homme. Comment ? Au-delà, en avant, trans, trans. Autrement dit, pour faire une grosse énormité, là, une grosse généralité, tout ce qui est trans, dans le sens de passer au-delà, qu'on a aussi dans traduction, bien entendu, le trans, c'est un double mouvement. C'est un mouvement d'élévation, si l'on veut, tu vois, et un mouvement de passer de l'autre côté. Tout ce qui est trans est intéressant. C'est pourquoi je suis européen. Hein. Tout simplement parce que c'est aussi une échelle, un niveau d'un certain dépassement. Et si on ne va pas dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on retombe en arrière, etc.
Alors, il y a également la vie.
La vie.
Oui, la vie. Et dans ces textes, oui. Dans ces poèmes, vous parlez aussi de la vie et de la mort aussi, et du rapport de la vie à la mort ou de la mort à la vie,
oui.
En mettant l'accent sur la vie, justement.
Sur
la vie. En mettant
oui,
l'accent sur
la même
vie.
Chose.
Oui, oui, oui.
J'ai une partie de ce livre qui s'appelle « Périr ».
Voilà.
Oui, « Périr », c'est veut dire « passer ». Et donc, à tout instant, « passer ». C'est qui est aussi trans. Je veux dire, il n'y a pas la vie et la mort.
Oui, oui, bien sûr.
Alors,
parce que la vie est mortelle.
Dans le texte philosophique de Heidegger, par exemple, dans la traduction française, il y a toujours les mortels, mortels, mortels. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas le couple mortel-immortel qui intéresse. On va dire que c'est nous sommes mortels mourants. Mmh. Ou si vous voulez, de ce beau mot français. Très 17e, périssant, en train de, que se passe-t-il en train de périr ? C'est pourquoi dans ce volume, il y a une partie qui s'intitule « Périr » et où je salue spécialement des amis disparus, des morts, etc. Voilà.
Oui, et qui d'ailleurs, pour vous, ne sont pas, j'allais dire, complètement morts. En tout cas, ils ont une forme de vie, pour vous en tout cas, tout en étant morts, tout en n'étant plus là. Il y a une présence des absents.
Bien sûr, mais ça, c'est le... Oui, je vous dis bien sûr, parce que c'est dans ce mouvement-là que je vais aller. Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Mmh. Nous sommes constamment... Tiens, dans ce poème, dans ce livre, j'ai mis justement... Et si on fait quelques lectures, je ne m'y oppose pas.
Avec grand plaisir.
Je vais lire à l'instant même un poème qui est dédié... J'y pense parce que j'arrive de Rabat. J'étais invité chez Amina Meddeb.
Voilà.
C'est un poème... À la, après la mort de grand type qui était Abdelwahab Meddeb, que vous connaissez sûrement.
Oui, oui, bien sûr. Hein, qui avait une émission sur France Culture.
Donc, c'est pour répondre à votre question, c'est-à-dire où sont-ils, qui sont-ils, avec qui vivons-nous, puisque vous m'avez invité, je parle aussi un peu de autobiographiquement. J'ai fait un livre, il y a malheureusement une vingtaine d'années, qui s'appelle « À ce qui n'en finit pas ». À ce qui est un livre de deuil que j'avais appelé d'un mot grec magnifique, mais qui avait passé en français, le traîne, T-H-R-N-E. Stravinsky avait fait une pièce musicale.
Tout à fait, avec Onès.
Traîne, c'est-à-dire un chant de deuil. Donc c'est un chant de deuil à ce qui n'en finit pas. Ça s'appelle « Prose du suaire ». Je vais lire et je ferai quelques commentaires. Parce que je considère, là aussi c'est des choses dont on peut discuter, que tout poème, non seulement est paraphrasable, mais attend sa périphrase. C'est-à-dire, le poème est concentré et il convient, c'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai été professeur, parce que si le poème n'était pas paraphrasable, il n'y aurait pas de professeur. Qu'est-ce qu'on va faire pendant des dizaines d'années, sinon paraphraser des poèmes Bon, alors, voilà. Je lis donc ce poème qui s'appelle « Prose du suaire ». Je le lis et j'en dis quelques mots. Hein, et qui est dédié pour Abdelwahab Meddeb. « La mort sur le lit te défigure. Elle est partout à la place du corps. » Ton visage se retire de la prosopopée, une vanité s'émacie dans le drap. Par les yeux enfoncés, tu recules en toi, où tu sais qu'il n'y aura plus de toi, si près de ton visage, ce jour-là croisé avec le nôtre, dans l'approche du baiser sur les joues, mon ami, tu mourrais sous nos yeux. Je t'ai baisé la main pour te dire adieu, comme si nous pouvions t'envoyer là, d'où tu nous veillerais, nous parlerais, sachant qu'il n'y aurait ni au revoir, ni à Dieu. D'où que tu sois, tu es ici, tu parles tes poèmes dans la nuit de nos jours, un nous peut te jurer une fidélité. Maintenant le voile, puis le suaire de nos pages, appliqué sur ta vie passible de la transcendance qui la configurait, relève les traces de cette transe qui la transfigura. Voici venu le temps des viveurs et des tueurs. À quoi bon les poètes, demandaient les penseurs. Tu réponds, dans la cité politique, bon, pas seulement pour le deuil et les danses. Ce que tu fis de la vie avec ta vie subite, son hôte, la vie à l'œuvre est la vie pour le convivre. Il n'est jamais trop tard pour le trop tard. Alors, je ne vais pas faire une leçon, mais je veux dire simplement deux, trois choses. Prose du suaire, c'est quoi? Alors, Abdelwahab était tunisien, famille et de culture et d'éducation musulmane. Et là, c'est un poème, si vous voulez, chrétien, qui traite avec ce que j'appelle volontiers, ça et là, dans les théorèmes, par exemple, qui fait parler de ce que j'appelle des reliques. Ça nous amènera peut-être un instant, je expliquerai. Nous avons, c'est une tâche, la responsabilité du penseur, car la poésie pense, de que faire de tout ce qui reste, de reliques. Non pas les reliques dont parlait Calvin, c'est-à-dire des petits bouts de phalanges qu'on se disputait dans les paroisses chrétiennes, mais les reliques, c'est-à-dire les grands termes, les grands mots, les grandes œuvres, les grandes histoires. Que faisons-nous avec ça aujourd'hui? Je vais en profiter, vous m'excusez, je digresse par association.
Les reliques, c'est ce qui demeure.
Oui, mais ce que je veux dire maintenant à ce point, c'est ceci. La question, c'est que faire de la poésie, par exemple, pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui. Par exemple, j'ai fait, et donc je parle un peu de moi, hein, j'ai fait il y a quelques années un livre que j'ai intitulé « La Pietà Baudelaire ». Et donc, c'est un livre qui essaie de prendre Baudelaire en entier, si vous voulez, tout en faisant dépendre... Enfin, je prends comme s'il y avait un leitmotiv chez Baudelaire que je trouve dans le poème, le fameux poème à la servante, et où il dit à un moment « Que pourrais-je bien dire à cette âme pieuse ?» Je dis ça, c'est la tâche. Que pourrais-je, lui, Charles Baudelaire, peu importe l'auteur, qu'on peut aussi appeler incognito, d'ailleurs, c'est-à-dire, que pourrais-je bien dire à cette âme pieuse? Donc, où en sommes-nous avec la piété? Et le poète qui est en dehors de l'affaire, lui, Charles Baudelaire, en ce moment-là, dit, que pourrais-je bien dire à cette âme? Et donc, j'essaye d'interpréter toute la pensée de Baudelaire comme une prise de responsabilité, une tentative de réponse à que dire à l'âme pieuse, qu'est-ce qu'une âme pieuse, etc. Bon, alors, la piété est une relique. Là, je prends deux termes qui viennent de l'histoire chrétienne.
Le Saint-Suaire.
Prose du suaire. Le voile et le suaire. Donc, prose du suaire. Prose, c'est allusion à une forme médiévale d'hymne qu'on appelle la prose. La prose, c'est un poème. En 11e, 12e, 13e, c'est des poèmes. Les proses. C'est la prose du suaire. Dans la circonstance, c'est Abdelwahab qui est mort et que je suis allé visiter, et en particulier donc la veille de sa mort.
Et alors, vous l'avez embrassé, donc.
Oui, oui, bien sûr. Alors aussi, j'ajoute qu'il y a justement, et j'ai même mis des guillemets à un moment, il y a une référence à la mort de Jacques Derrida. Car quand Jacques Derrida est mort, c'est extraordinaire, et son fils a lu les dernières lignes qu'il avait écrites pour être lu par son fils, et qui commençait par d'où que je sois, etc. Et là, j'ai mis entre guillemets d'où que tu sois, d'où que tu sois. Je ne vous ai pas quitté, d'où que tu sois. Alors, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Encore un mot. Donc, quand je dis maintenant le voile, puis le suaire de l'opage appliqué sur ta vie, c'est une transposition. C'est la relique en question, si vous voulez, c'est le voile de Véronique, donc qui suit la face et qui, sur le voile, passe une trace, ou passe quelque chose, soit un visage, hein, et le suaire, ce qui donne à chaque fois l'occasion à des, je dirais, moi, vous pardonnez, des superstitions, mais on ne va pas parler de ça maintenant, mais le suaire de Turin, qui est, bon, alors, c'est, donc, le voile puis le suaire de nos pages, c'est-à-dire nous, écrivains, ça, c'est ça, le suaire, c'est-à-dire la page appliquée sur ta vie, et que, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce que je retiens par soi-même. Donc, le voile puis le suaire de nos pages appliquées sur ta vie passible de la transcendance qui la configurait, relève, c'est un verbe au pluriel, le voile puis le suaire relève les traces de cette transe. Alors, transe, j'ai parlé tout à l'heure de transe, préposition, préfixe, transe. Là, j'écris transe, la transe. Mmh. Hein, la transe en danse. On pourrait prendre, il m'est arrivé de prendre le mot philosophique transcendance et de l'écrire. La transe en danse. Bon. Donc, relève les traces de cette transe qui la transfigura, qui transfigura ta vie. Et qu'est-ce que nous en faisons, nous, écrivains, poètes, en appliquant ces pages sur ta vie? Voilà, ce poème.
Alors, je vais rebondir un petit peu. On voit que la poésie joue à la fois sur ce qu'on pourrait appeler les signifiants et sur les signifiés. C'est-à-dire qu'il y a un jeu permanent avec la langue d'abord. Et la pensée sur les choses naît d'un certain usage de la langue et d'un usage ouvert de la langue par le poète. Alors je voudrais que... Et on voit chez vous aussi qu'il y a un lien profond entre la poésie ou le poétique et la philosophie, le philosophique. Et donc pour vous, penser se fait d'abord dans la langue et dans une langue que vous allez en quelque sorte hériter, qui est votre langue maternelle, mais que vous allez travailler, que vous allez ouvrir et qui devient en quelque sorte votre langue.
Bon, alors je vais répondre à certaines des choses que vous dites là, qui sont évidemment très vaste et très ouvrant, alors dans un ordre quelconque. Hein. Bon, vous avez pris le langage de ce qu'on a appelé le structuralisme, c'est, finalement c'est assez récent, c'est Saussure qui a lancé tout ça au début du XXe siècle. Signifiant, signifie référence. C'est, la première remarque importante, c'est la structure du signe. Attention, je vais arriver à la question de la musicalité. Parce que avant ce temps saussurien, et toujours en ce moment, on parle aussi, par exemple, c'est un titre de Michel Foucault, les mots et les choses. Hein. Les mots et les choses. Alors, dans le vieux langage pré-saussurien, mais qui continue, il y a les mots, les choses, et si vous voulez, les idées, qu'on peut appeler aussi des notions. Donc, finalement, on manœuvre toujours avec trois. Alors, Saussure a, dans son cours de linguistique, du début du XXe, a fixé une fois pour toutes la structure du signe, au sens sémiologique, signifiant, signifié, référent. Alors c'est à la fois utile et en même temps il faut s'en méfier, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on a tendance donc à maintenant, et surtout dans l'enseignement, à détacher...
À séparer
un peu trop la signifiance du signifiant, la signification du signifié et la référence, c'est-à-dire ce à quoi ou ce de quoi l'on parle. Les Anglais disent parfois le « what aboutness » dans l'enseignement, le « au sujet de quoi », le « de quoi ». Alors, il faut tenir tout ça ensemble. Mm-hmm. Et si vous voulez, moi, pour le dire, en projetant vers la fin, et je n'aurai pas le temps d'en parler, ma pensée actuelle, et je l'appellerais d'un nominalisme radical, qui revient d'ailleurs volontiers... qui parlera plutôt de mots, choses, concepts, ou mots, choses, idées. Je jette beaucoup de choses, vous m'excusez, ça me fait penser à Yves Bonnefoy, avec qui j'ai souvent eu des discussions là-dessus, le concept. Il y avait une certaine hostilité grande, en tous les cas, reluctance, ça, de dire bonne foi à l'égard du concept. Ça n'est pas du tout mon cas, mais c'est, on a parlé souvent de ça, et j'en parle d'ailleurs dans le Baudelaire. Revenons en arrière. À propos de cette structure du signe, ça m'est une occasion de souligner un point important, parce que c'est un objet de confusion souvent, et sous la forme, on va dire, axiomatique, la poésie n'est pas la musique. Alors attention, hein, on parle d'une musicalité de la poésie, mais ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la poésie n'est pas la musique. Autrement dit, le texte n'est pas une partition. Ou plutôt, une partition n'est pas, n'a pas de, la musique n'a pas de signification linguistique.
D'accord, c'est ce que disait
c'est
un
magnifique.
Peu.
C'est ce qui fait qu'on peut entendre toutes les musiques du monde.
C'est un peu ce que disait Stravinsky. Et d'ailleurs, vous dites vous-même, par exemple, que c'est un peu le reproche que l'on pourrait faire à l'opéra, qui met des mots sur la musique.
Ah oui, attendez, ça vous bousculez un peu trop. Je veux rester dans le truc. Non, c'est important parce qu'il faut chercher à un certain moment qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de musicalité de la poésie. Mais la poésie n'est pas la musique, ça veut dire que, on peut dire autrement, la musique n'a pas de signification. Mmh. Elle a du sens. Mmh. La musique accompagne la vie, et au fond, le sens est ce qui accompagne, hein, ou la vie accompagne la musique, je préférerais même ça faire. Alors, c'est très important. Là, c'est l'objet, surtout quand on a dans l'enseignement, qu'est-ce qui permet de parler de musicalité. Alors aujourd'hui, avec la signifiance, on a un peu trop disloqué les choses. On fait comme si le son devenu phonème, le phonématique signifiant, va être traité un peu trop à part, et la signification un peu à part, et la référence. On va parler de la référence, c'est très important. Hein. Alors, là, je vais parler aussi par anecdote. Je me rappelle, un jour, je suis à Jérusalem, invité à Mishkenot, et alors il y avait une grande soirée, ça avait des lectures de poésie internationale, et donc il y avait une vingtaine d'invités, donc une vingtaine de langues. Je suis à côté d'une dame fort sympathique, et quand arrive le tour du poète chinois, elle tombe en extase. Alors je lui dis, tiens, vous, en anglais, bien entendu, mais vous avez de la veine, vous comprenez le chinois. Ah, dit pas du tout. Ah bon ? Mais alors, qu'est-ce qui vous plaît ? Ah ben, c'est le chinois. Alors, j'ai dit, si on vous avait récité l'annuaire de Shanghai, vous auriez été dans le même état. Bon, je dis ça par point de polémique, il faut toujours... Donc, en ce qui me concerne, la question signification et sens, ça signifie... Je veux bien, si vous voulez, le rapport mot-chose, référence, je viens. Donc, tout ce que vous avez dit au début, bien entendu, le poème est une... est une jouissance de la langue par un sujet qui parle, ce que Jean-Claude Milner appelle un être parlant. La base, c'est nous sommes des êtres parlants. Mmh. Ou si vous préférez, des êtres pensants, ce que disait le logos grec, ça veut dire des êtres pensants, parlants. Mmh. Bon. Alors ça, c'est... Et quand je me rapporte à la poésie dans la langue maternelle, je vais dire un mot là-dessus à cause d'un arrêt, qu'est-ce qui se passe ? Je jouis, comme on dit, au 16e, 17e encore, jouir, c'était jouir de Dieu, Spinoza, hein, godere Deo. Mmh. Maintenant, ça a un peu changé, mais c'est pas grave. Alors, la jouissance, s'il n'y a pas la capacité chez un sujet locuteur de jouir de sa langue, la langue dans laquelle il a été élevé, il n'aurait pas de rapport à la poésie. Il se passe, évidemment, c'est dans la langue que ça se passe. Mais en même temps, c'est l'ouverture, l'éclairage, le rapport à ce qui est. On peut l'appeler des choses, hein, les choses, d'accord. Alors, c'est toujours dans tous les cas, c'est ma préoccupation, c'est toujours les deux en même temps. Mmh. Quant à la référence, la simplification au début du cours de Saussure, on peut dire ça comme ça, c'est que il prend, en parlant son cours, au moment où il dit voilà, signifiant, signifié, référence, il dit l'arbre, c'est toujours l'arbre. Mmh. Je remarque d'ailleurs que dans la rue qui monte de l'école polytechnique à Paris, la rue Mouffetard, il y a le grand poème de Bonnefoy sur un mur, c'est l'arbre. Hein. On pourrait digresser comme ça. Mm-hmm. Quand je pense à l'arbre, je me rappelle tout à coup que Deleuze ne met pas les arbres. Il avait dit, vaut mieux le rhizome. Hein. On sent où on est avec là. Et chaque fois qu'il y a un exemple, il l'arbre. Et Saussure, il fait son cours, et au moment où il parle de la référence, il dit, vous voyez, il montre un arbre, et il dit baume, tri, arbor, dendron, blablabla. D'accord. Donc, il y a le signifiant, toi tu dis baume, moi je dis arbre, mais il y a le même. Alors c'est ça qui est la question difficile. Parce que Il y a un certain nombre de choses qu'on peut effectivement montrer, mais les choses ne sont pas ce qu'on peut montrer. Si je parle maintenant de la justice, de la tristesse, de, etc., ah, vous ne pouvez pas me montrer. Non, non. Tristesse, te voici. Oui, mais ça prend du temps de montrer la tristesse. Donc, les choses, les grandes choses, les choses de la vie, les choses de la mort, les dernières choses, les premières choses, les choses sont ce qui est en même temps montré et qui ne peut pas être montré du doigt. Il ne peut pas être montré. La plupart des choses dont nous parlons ne peuvent pas être montrées du doigt. Par exemple, si on discute en ce moment politique, on va parler d'un tas de choses qui ne sont pas justement. Alors, donc la référence sans laquelle il n'y a pas de poème, ce à quoi, ce de quoi l'on parle, ce à quoi on se rapporte, c'est-à-dire que la pensée à ce que les philosophes appellent le ilia es gibt, qu'on peut appeler le donné, etc. On va pas. Donc, il y a un danger, en tous les cas, à mes yeux, qui est menaçant, c'est si on cherche à enfermer le poème, chose écrite, chose dans la langue, comme s'il n'avait affaire qu'à lui-même, et on a parfois employé le mot de sui référentiel, mais la sui référentialité du poète, ça n'est pas le fin mot. Bien entendu, c'est la langue que j'entends, et grâce à cette entente, je me rapporte aux choses. C'est donc toute l'affaire. Hein. D'ailleurs, dernièrement, je vais vous dire en résumé quelque chose que j'ai introduit peut-être même dans ce livre, c'est de dire attention, une des grandes choses du XXe siècle dans la pensée qui vient des sciences humaines et de la linguistique, ça a été le performatif. Je me rappelle que même au fond, Jacques Derrida, par exemple, un grand penseur, avait fait une partie de son œuvre avant. Le performant Austin, avant Austin. Austin. Oui. Alors là, le moment où il y a eu le
quand dire c'est faire, quand dire c'est faire,
quand dire c'est faire, on dit ah qu'est-ce qui se passe, performatif. D'une certaine manière, le performatif, je rappelle les exemples d'Austin qui sont très simples, c'est à certains moments de la vie et à certaines conditions qui fait qu'il y a 12 volumes d'Austin, quand dans certaines conditions, ce que je dis change les choses, en tous les cas, mon rapport à la vie et dans les choses. Il prend deux exemples. L'ouverture de la séance à l'Assemblée. S'il n'y a pas à un moment un président qui dit « la séance est ouverte », eh ben, il n'y a pas de séance. Et l'autre exemple, qui est aussi plus amusant, si on veut, c'est l'exemple du mariage. Alors, il faut un officier d'état civil ou un prêtre. Et attention, veux-tu prendre Eugénie pour femme ? Attention, si tu dis oui, ça y est, c'est trop tard, c'est fichu. Donc, et réciproquement. Donc, hop. Alors, quand dire, c'est faire. Et au fond, je retourne dans les efforts pour entendre de quoi il s'agit avec la poésie, je prends volontiers cette formule en la retournant. Qu'est-ce que c'est que le poème ? Poiema, poiein. C'est quand faire, c'est dire. Quand faire, c'est dire. Le poème. Alors, c'est dire quoi ? C'est dire ce que fait une chose quand elle fait ce avec quoi, ou ce pourquoi, ou ce comme quoi elle est. Je vais prendre des exemples. Par exemple, chez Ponge. Ponge est assez aimé de l'enseignement.
Le parti pris des choses.
Francis Ponge.
Oui, Francis Ponge.
Francis Ponge, leçon de choses. Ah. C'est très bien les leçons de choses, parce que avec les enfants, surtout, on dit bon, voilà. En France, dans l'histoire de la poésie française, il s'est passé aussi des choses extraordinaires. C'est que souvent, des poètes qui passaient pour très difficiles de leur temps, comme peu à peu, deviennent des poètes parfaitement lisibles. Prenons Paul Valéry. Au début du siècle, Valéry, à la jeune parc, le cimetière marin, on disait qu'est-ce qu'il y a, de quoi il parle, et vous voyez. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Alain, Émile Chartier. Au passage, je rappelle qu'Émile Chartier-Alain était le penseur de la Troisième République, ami d'Édouard Herriot, très important. Et alors, Alain a fait deux livres qui sont les commentaires de la Jeune Parc et du Cimetière. C'est pour dire, vous affolez pas, je vais vous raconter de quoi il s'agit. Et quand le nous des lecteurs, le nous des enseignants, quand nous lisons ces poèmes, ils sont parnassiens, si vous voulez, très très beaux, très bien construits. Parfaitement lumineux, paraphrasable. Même chose pour Saint-Jean-Père, tous ceux qui sont. Bon, alors je ne sais plus très bien pourquoi je dis ça. Oui, Ponge. Ponge, leçon de choses. Alors, les titres, par exemple, c'est l'huître. le soleil, l'électricité, ou bien le cajot,
oui.
etc., etc. Alors, le poème, qu'est-ce qu'il fait? Il dit. Il dit quoi? Ce que fait l'huître, prenons cet exemple, quand l'huître fait l'huître. Qu'est-ce qu'elle fait l'huître? Ou bien il avait un poème sur le ver. Alors, je crois que c'est pour... Même si Bonnefoy n'aimait pas Ponge ni les fabulistes, mais je crois que c'est une bonne manière, en tous les cas, dans la minute, d'introduire la question. Parce que c'est-à-dire le faire comme, l'opération poétique, qui pour moi, quand je la commande, finalement consiste dans ce que j'appelle parfois indifféremment comparaison, rapprochement, métaphore, qui a à faire avec l'être comme. L'être comme d'une chose, donc avec l'identité, mais attention à l'identité. Au fond, on pourrait dire qu'avec la poésie, l'identité vole en éclats. Mmh. Voilà. Il s'agit de faire voler l'identité en éclats. Mmh. Ce qui ne veut pas du tout dire, enfin, pas du tout, ça a un côté menaçant, mais en fait, ça ne veut pas dire la perdre une fois pour toutes, de faire voler l'identité en éclats. Être comme.
Bon, l'identité alors, est multipliée en quelque sorte, elle est multipliée à l'infini.
Oui. À l'infini, enfin,
en tout cas, il faut que ce soit de
parce
bonnes...
Il s'agit bien de faire voler l'identité en oui. éclats, mais en même temps, il y a la question du même. Qu'est-ce que c'est que le
et
même?
Il faut
le
que
même
les comparaisons soient justes aussi.
Absolument. Alors, encore un mot sur les exemples pongiens, parce que c'est un peu plus retors. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine manière des choses qui font qu'elles sont choses quand elles font comme si elles étaient des huîtres. Qu'est-ce que tu fais? Je fais l'huître. C'est amusant, hein? Le faire en français, ça pourrait être faire le malin, fait lui. Qu'est-ce que fait le soleil, c'est plus beau, ou le ver, quand il fait, alors il dit, et tout le monde là s'approche de lui, on dit oui, c'est comme ça, d'où mon titre.
D'où le voilà. Titre, hein, comme ça.
Ça, c'est mon art poétique le plus bref, c'est un distique, comme si, comme ça, évidemment. Comme si, als ob, c'est le comme si philosophique, tout se passe comme si c'était comme ça. Ce qui me rappelle une anecdote qui vient du rapport à la philo. On reviendra plus thématiquement là-dessus dans un instant, mais je me rappelais, ça m'avait frappé dans les classes de philo à l'époque, on m'avait raconté que Hegel, on l'avait amené où il se trouvait, pas loin des Alpes, c'est la première fois qu'il va à toute la grande dans les Alpes. Alors, on lui dit, les élèves sont là, qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà la montagne. Et alors, qu'est-ce que dit Hegel? Es ist so. Tout le monde prend des notes. C'est ainsi. Ah, il a dit c'est ainsi, es ist so. Mais la question, c'est que c'est ainsi. S'il en reste là, ça n'est pas intéressant. Évidemment, c'est ainsi. Mais c'est comment c'est? Ça serait une expression, tiens, de Beckett. C'est ça, Beckett. Comment c'est? C'est comment? Donc, comment du poème est très important, il faut l'oublier. Alors, parler de la montagne, c'est de dire c'est comme elle est comme ça. Et le comme ça ouvre le rapport avec les autres choses que, dans la littérature française depuis le début du XXe siècle, on appelle souvent rapprochement. Vous vous rappelez le moment surréaliste, ou bien Max Ernst, mais aussi Breton avait dit, nous allons parler de rapprochement, parce qu'il citait l'Outre-Amont.
La rencontre.
Le rapprochement qui rapproche des choses très éloignées, et c'est d'autant plus intéressant que les choses sont plus éloignées. À partir de là, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Parce que l'exemple qui vient de l'Outre-Amont, c'est le fameux parapluie et machine à coudre sur une table de dissection. Parapluie et machine à coudre sur une table de dissection. Rien n'est plus banal. Si vous allez vous entrez dans un hôpital, dans un truc, et trouvez dans le débarras, donc c'est complètement banal. Rien n'est plus. Et de même, les mots sont aussi éloignés les uns des autres, aussi proches, et les choses également. Donc ça se complique à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va dire par rapprochement? J'en donnerai un exemple final tout à l'heure de ce que j'entends par l'opération poétique. C'est-à-dire rapprocher. Et c'est ça que je veux dire par faire voler l'identité en éclats. Non pas un prédicat qui est inclus. On dit prédicat maintenant, il paraît dans l'enseignement. Il paraît que c'est affolé, ça a affolé les profs. Avant, il y avait. Si, vous n'avez pas vu ça?
Non.
Très intéressant. Sujet, verbe, attribut. Et il paraît que maintenant, on doit dire dans les classes, prédicat. pour un philosophe, rien n'est plus banal qu'un prédicat. Leibniz, prédicatum in et subjecto, etc. Mais il paraît que c'est affolant. Bon. Alors, ce qui est intéressant dans le faire voler l'identité en éclats, c'est par où faut-il passer, quand et comment le rapprochement va être intéressant. Mais les mots eux-mêmes, selon l'ordre que vous voulez, dans le glossaire, vous pouvez les mettre en ordre alphabétique, en autre ordre. Les mots sont aussi éloignés et proches que vous voulez. De même, les choses. Rien n'est plus banal que parapluie, etc. J'ai déjà dit. Donc, c'est le rentrer dans l'affaire du rapprochement qui est intéressant. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, pour rester un peu dans ce qu'on m'a dit, signifiant, signifié, j'ai un peu parlé. Par nominalisme radical, j'entends ceci. Mot, chose, pensée, le même. Il n'y a pas... Alors là, il faudrait faire un cours. Comprenez ? Là aussi, ça me donnera l'occasion de parler de philosophie. On peut dire, je crois, dans une histoire de la métaphysique un peu rapide, que nous sommes sortis du platonisme. Attendez, Alain Badiou, s'il était là, m'engueulerait immédiatement. Mais vraiment, parce que lui, il dit, je suis platonicien. J'entends par là simplement que le problème de Platon, sensible, intelligible, idée. Alors, il y a des cas, des exemples, et l'idée. Et une fois que vous avez envoyé l'idée au-delà, en grec, ekei, là-bas, aion, toujours étant, c'est-à-dire une certaine forme de, même plus que de pérennité, on va dire une sempiternalité, l'idée, le problème platonicien, c'est la métexis, c'est-à-dire, maintenant, il faut, quelle est la participation,
c'est ça.
Comment l'idée va participer. Mon point de vue, pour le résumer brutalement, après des années, c'est de dire qu'au fond, les interlocuteurs de Socrate, les jeunes gens, qui l'interroge, c'est eux qui ont raison.
Simias et Cébès, dans le Phédon.
Simias et Cébès, par exemple. Parce qu'il leur dit, sur l'Agora, il leur dit, alors, qu'est-ce que c'est que la beauté ? Tiesti to kalon. Mais le grec, donc, du 5e siècle, dans la rue, on croit qu'on lui demande de désigner quelque chose de beau. Alors, il dit, ma cousine Sophie est belle. Ah, très bien. Alors, Socrate essaye de faire franchir ce pas, qu'on va appeler le pas platonicien après, bien entendu, mais Socrate, chez Platon, c'est que il y a tout ce qui est beau renvoie, enfin, les exemples s'annulent ou s'indifférencient, et ce qui compte, c'est l'idée de la beauté en tant qu'elle est toujours, ce qui est. Voilà. Ensuite, il faut chercher à comprendre comment l'idée participe du sensible. C'est infernal. Tandis que on peut dire ceci, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'idée de la beauté. Il n'y a que des choses belles. Alors, si vous rapprochez ça, chose, mot et idée, ce que j'appelle nominalisme, c'est qu'il y a, un refus, si vous voulez, de séparer l'idée du sensible et de séparer le langage, les langues, le langage des langues. En français, on a deux termes. On a de la veine, langage des langues. Il y a des langues qui n'ont pas, distinction, le langage des langues. Et Dieu sait si c'est cette affaire, on va peut-être en parler tout à l'heure, compliquée, puisque nous sommes des êtres parlants, zon, logon, écho, le langage, mais nous parlons en langue. Et autrement dit, nous ne nous entendons pas. Il faut toujours partir de là. Les hommes ne s'entendent pas. Eh oui. Ils parlent en langue, mais ils ne s'entendent pas parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Alors ça, c'est la question en art poétique, la question qu'on peut appeler Babel, la question des traductions qui agitent tout le temps. Babel, est-ce que c'est la pire ou la meilleure des choses ? Une question très importante. Mais il faut bien comprendre que les êtres humains ne s'entendent pas. Tu parles ta langue, par exemple l'ourdou, et moi je parle ma langue, par exemple le français, mais je n'entends pas l'ourdou, tu n'entends pas le français. Bon, là on peut parler. Où est-ce que... bon. C'est extrêmement important. Par nominalisme, j'entends un état de la réflexion tel que les distinctions intelligibles qu'il convient de faire, par exemple chose, mot, idée, si vous voulez, ou concept, hein, tout en les distinguant, au fond, sont une, indivises. Hein. Et alors, évidemment, ça, c'est le nominalisme détesté par les médiévaux. Enfin, tout, question du nominalisme. Alors, pour boucler cette longue réponse, je dirais, voilà, La poésie, pour moi, c'est un nominalisme profond et intégral, une jouissance par et pour un locuteur de la langue maternelle, un mot sur la langue maternelle. Hannah Arendt disait, dans des pages fameuses, « Ma seule patrie, matrie, c'est l'allemand. » Elle a vécu aux États-Unis, comme chacun sait, elle faisait ses cours en anglais, mais elle dit « Je... ma... » C'est pas Heimat, je disais, enfin, c'est ça mon maternel. Je parle et je pense en allemand. Et elle ajoutait cette chose merveilleuse, c'est que c'est la seule langue dans laquelle je peux me permettre des choses.
Voilà.
Je vais développer ça un instant, parce que ça, c'est la poésie. C'est la seule langue. Autrement dit, elle peut, on dirait aujourd'hui, néologiser. Elle est née. La langue maternelle, c'est la seule qu'on n'a pas apprise. C'est ça qui est formidable. Hein. Toutes les autres langues, on les apprend. La langue maternelle, c'est celle que je n'ai pas apprise.
On baigne dedans, quelque
part. Et même, selon Platon, pour une fois, in utero, c'est-à-dire qu'il y a un passage de la politique où Platon disait, il conseillait aux mères de famille enceintes de danser selon certains rythmes pour communiquer un certain rythme au fœtus, on dirait aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. Alors, la langue maternelle, c'est celle que je n'apprends pas, et c'est donc, disait-elle, la seule dans laquelle je puis me permettre des choses. C'est intéressant, les choses, parce que, bien entendu, ça veut dire se permettre des mots, donc moi, j'abuse tout le temps aussi, à la même manière, avec le néologisme, on sent qu'on peut essayer telle chose avec dans la langue française, tel mot, le changer. Alors, le néologisme, c'est finalement, si vous voulez, c'est ou ça marche ou ça marche pas. Un néologisme, il peut être reçu. Si on ouvre le Robert, on voit très souvent à côté des mots une date, 1622, 1215, ça veut dire un mot qui tout à coup est reçu dans la langue. Mais très souvent, et c'est mon cas, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on sait, tiens, je fais un néologisme, mais ça ne passera pas. Néanmoins, c'est la seule langue, c'est la maternelle, c'est là où on se permet des choses. Et c'est intéressant de dire des choses, parce que les mots sont des choses. Les choses se permettent, elles se permettent des choses, ça veut dire dans la langue, et du même coup, ça touche à ce qui est. Alors voilà, c'est ça la maternelle. Et je vais jusqu'à dire que le sujet parlant-pensant, le locuteur, s'il n'a pas ce rapport de jouissance qui n'est pas forcément du tout dans l'oralité, c'est ce que j'appelle l'ouï-dire, l'ouïe intime, l'intériorité de sa langue, pas la peine de crier, ni même de parler, j'entends. S'il n'y a pas une jouissance de sa propre langue, alors il n'y a pas de rapport avec la poésie.
Avec ce que la langue comporte de générativité en même temps, puisque le locuteur, en quelque sorte, crée ses phrases. Il ne se contente pas de reproduire des phrases, de recopier des phrases, mais il les invente, il est capable de les inventer à partir à la fois du vocabulaire et de la grammaire, de la syntaxe.
Ben, c'est ça que veut dire parler.
Bien sûr.
Oui.
Mais alors, ça veut dire que, en général, quand on emploie une langue étrangère, on se contente de communiquer. On n'est pas dans le même rapport, en quelque sorte, ni peut-être à la langue, ni aux choses.
Mais bien sûr, c'est ça qui se passe, effectivement.
Alors, je voudrais vous soumettre, là, peut-être, pas une objection, mais un exemple.
Oui.
C'est le cas, par exemple, d'un auteur comme Nabokov, qui est capable, dans Ada, d'écrire une sorte de mélange d'anglais et de russe. Alors Nabokov, bon, il y a d'autres exemples d'auteurs comme ça, Joseph Conrad aussi, par exemple, qui sont capables de devenir des écrivains, de faire de la littérature dans une autre langue que leur langue maternelle.
C'est ce qu'on appelle l'exception.
Voilà, l'exception, absolument. Voilà. Le cas de Nabokov est intéressant.
Le poème de Nabokov, au début de ce livre que vous citez, c'est peut-être pas celui-là.
C'est Ada. Ada ou l'ardeur.
Oui, je me demande si le grand poème qui ouvre, il y a un livre de Nabokov qui commence par un poème de 20 pages, un poème.
C'est Pnine, peut-être.
Magnifique.
Est-ce que c'est Pnine?
Je ne sais plus. Bon, alors il ouvre par un poème.
Feu pâle.
Voilà, feu pâle, exactement. Hein. Conrad est passé à la langue anglaise, tout ça. Donc c'est l'exception. Tiens, je vais en prendre une. D'un auteur français, poète, hélas mort il y a quelques années, que vous connaissez peut-être, Claude Esteban. Claude Esteban avait écrit un petit livre publié dans la collection Pontalis, et où il disait cette chose surprenante. Il a été, c'est un cas extrêmement rare, il a été élevé dès la première seconde et simultanément en espagnol et en français. Donc il avait deux langues maternelles, paternelle, maternelle. Et il raconte dans ce livre que c'est une souffrance. C'est très curieux. C'est comme si lui-même et toute sa vie, il était même dans ses rêves ou quoi, il était dilacéré avec ou entre deux langues. C'est son cas, je ne suis pas sûr que ça soit une souffrance. Enfin, c'était son cas. Hein. Il y a des bilingues, il y a même des trilingues de naissance. Hein. Bon, mais ça ne change rien à ceci que la langue maternelle est celle dans laquelle que je n'ai pas apprise et dans laquelle je permets des choses. Hein, d'accord. Tant mieux pour Nabokov et Conrad et quelques autres. Ouais. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Mais c'est comme toujours, ça, c'est aussi une affaire fréquente dans les discussions. La différence de l'exception. C'est pas parce qu'il y a un objecteur qui me dit « Ah, tu viens de dire une chose intéressante, mais Conrad », que ça change la chose.
Ça ajoute au contraire.
À savoir, la langue maternelle est celle que je n'apprends pas. Donc je la sais, c'est ça l'affaire. Et donc je l'entends, et donc je peux avoir une jouissance, je veux bien qu'on dise ça. Hein. Lacan, là-dessus, beaucoup, la langue, beaucoup développée, c'est extrêmement important, parce qu'il ne peut pas y avoir de plaisir, prenons ce terme-là aussi, à une lecture de poèmes, s'il n'y a pas cette capacité, alors on va dire sui-référentielle, non, mais cette capacité d'entendre la langue pour elle-même, dans tout ce qu'elle peut. J'ajoute un mot, parce que vous avez dit, vous avez tout à l'heure dit phrases et mots.
Tout à fait.
Alors il y a un point important en poétique, c'est que je pense à Stéphane Georg, et du coup, à Heidegger, qui le commentait, le mot, le mot. Moi, je dis beaucoup plus volontiers la phrase, autrement dit, l'unité dans laquelle on vit, c'est la phrase, c'est pas le mot.
Yes.
Mais il y a, dans l'idolâtrie, la superstition qui entoure la poésie, Dieu sait s'il y en a, il y a cette, comment dire ça, oui, cette superstition, cette idolâtrie. Il y a un mot, le mot magique, le mot. C'est un mot, hein. Le mot, non, l'unité, si je peux dire, ou l'élément dans lequel, l'élémentaire, c'est la phrase.
Bien sûr.
Mais, alors, là, il faudrait faire allusion au romantisme, et à tout ça, c'est très, très, à tout la question de la magie poétique, de l'alchimie du verbe, comme s'il y avait un mot, au fond, ce qu'on dit aux enfants, au fond, ça vient des contes. L'abracadabra, comme disait Chirac, c'est-à-dire... je dis tout à coup le mot qu'il faut et tout s'ouvre, la caverne s'ouvre. Mais non, c'est pas des mots, c'est des phrases.
Bien sûr. Hein.
Au commencement était le verbe, supposons, et ça veut dire la phrase, ça veut pas dire le mot. Hein. Bon, c'est extrêmement important parce que ça joue un rôle dans les discussions entre poéticiens. Je me sers volontiers du terme de poéticien pour dire ce que je fais aussi parce que ça, poéticien, c'est comme mécanicien. C'est-à-dire, poéticien a affaire avec la poétique. Pourquoi il a affaire avec la poétique ? Depuis toujours, par exemple, depuis qu'Aristote a dicté
sa poétique.
Pour lui, la poétique, ce qui fait un usage substantiel, substantif, d'un adjectif, ce qui souvent en français répugne, malgré la philosophie allemande, la poétique. On a un usage poème, poésie, poétique. Alors, je fais partie de ceux qui prennent la poétique substantivement, c'est-à-dire que c'est justement l'affaire, c'est-à-dire, on va dire ça un peu brutalement, entre, mais pas au sens de ce qui sépare, mais au sens de ce qu'il y a entre philosophie proprement, plus proprement dite, qu'est-ce que je veux dire par plus proprement dite ? C'est-à-dire, quand on cherche un livre de philosophie, par exemple chez Mola, on ne va pas dans le rayon poésie, il y a une différence. Mais enfin, la poétique, c'est la réflexion... ou théorie, pourquoi pas, faut pas avoir peur. Théorie, théorème, ça veut dire comme dans le théâtre, ça veut dire voir, regardez. La théorie, il n'y a pas d'œuvre poétique qui ne comporte avec et distinct des poèmes, on parle en Baudelaire, par exemple, après tout, c'est l'homme d'un seul livre, si on veut, Les Fleurs du Mal, sauf qu'il y a deux ou trois, maintenant, volumes Pléiade. C'est-à-dire... lettres à sa maman, les articles innombrables, le rapport avec les peintres. Et c'est ça, la poétique. Ça veut dire que, bien entendu, on va dire l'inquiétude de la poésie sur ce qu'elle est et ce qu'elle fait habite la poésie. On ne l'implante pas de son dehors pour lui dire « Attention, tu ne sais pas de ce que tu dis ». Même si beaucoup de poètes disent « Je ne sais pas exactement ce que je dis, mais je suis inspiré ». Ça, c'est une allusion aussi à un dialogue de Platon très connu, très intéressant, du début.
Lyon.
Justement, Lyon.
Ah oui, quel important.
Socrate rencontre...
Avec donc, la voix brève, justement, la voix brève de l'inspiration et la voix longue du...
C'est bien, c'est fondamental aussi, parce que Ion, c'est quoi Ion? En grec, il se nomme Herménotès. Alors, Socrate est là, il dit, qu'est-ce que tu fabriques? Alors, il dit, moi, je suis Herménotès. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, je connais Homère par cœur, tout Homère, et du coup, je connais, et c'est tout. Parce que sachant Homère, savait tout. Alors, Socrate l'amène, comme toujours, dans le ridicule, et à la fin, il lui dit, au fond, Ion, je te donne le choix, ou bien tu es un crétin, je ne sais plus quel est le mot grec, un imbécile, ou bien tu es enthousiasmos, ou bien tu es possédé par les dieux, choisis. Alors Ion dit, je suis possédé par les dieux, d'accord. C'est-à-dire, voilà, cette inquiétude de la poésie sur ce qu'elle fait, ou sur ce qu'elle est, en faisant lire, habite le poète. Même si certains préfèrent dire « je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas des trucs ». Alors, autrement dit, philosophie et poésie ne sont pas du tout deux étrangers, ils n'ont toujours été ensemble. Nietzsche avait inventé les pré-socratiques avant Socrate. Finalement, les pré-socratiques, qu'est-ce que c'est? Héraclite, Parménide, ce sont soit des gens qui écrivent un poème, soit qui ont le logion, l'aphorisme. Alors, l'œuvre d'Héraclite, ça consiste en aphorisme. On continue à commenter. On peut dire que c'est un bref poème, un aphorisme. Qu'est-ce qui a commencé? C'est les penseurs pré-socratiques ou c'est la philosophie et socratique? Eh bien, ça a toujours été ensemble.
Bon, est-ce que vous souhaitez développer un petit peu ces rapports, pour vous, entre poésie et philosophie? Ou est-ce que vous estimez
Je préférerais que vous posiez une question plus précise.
Alors, ça, c'est trop large.
Non, on continue, c'est très bien, mais je ne sais pas exactement. Si vous me posez une question comme ça, c'est trop massif.
Bon, d'accord. Mais la poésie...
Je vous raconterai ce que j'entends par opération poétique. Je vais essayer de prendre un exemple avec des choses que j'ai faites dans les 2-3 dernières années.
Oui. Opération poétique.
Autrement dit, la question est à quoi ça sert, la poésie, finalement.
Alors, je voulais vous poser une question aussi, mais vous verrez si vous la traitez en même temps, à propos de l'adresse. La poésie est aussi adresse pour vous, adresse à l'autre, et partage.
Bien sûr. Et ça, c'est le... Je dis bien sûr, parce que si ce n'était pas ça, qu'est-ce que ça serait? Alors, dans l'anecdote, ça donne ceci, mais on va aller au fond de l'anecdote, que celui qui écrit un poème... écrit pour le faire entendre, c'est-à-dire le publier et arriver chez Mola un jour ou l'autre. Alors, autrement dit, je ne pense pas... Quand vous écrivez quelque chose dans le travail d'écrire, faites attention, c'est, je dirais, en forçant un peu la chose, que la publication, c'est-à-dire... le donner ça, le faire partager ça, Baudelaire, je te laisse ces vers, non, je te donne ces vers, je te donne ces vers afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines, vaisseau favorisé par un grand Aquilon, je te donne ces vers. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas commencer par à dire, il y a d'abord le pour soi, puis ensuite, non, pas du tout. C'est parler, c'est dialoguer, c'est toute la philosophie qui a développé ça. Bon, alors... Et du coup, d'ailleurs, je signale au passage, on fait un peu une allusion à des phénomènes sociaux et à aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, le problème avec la poésie, c'est que dès que vous avez 15-16 ans, vous êtes amoureux. Chez Dante, c'était 9 ans, je rappelle. Et donc, vous écrivez des poèmes et vous cherchez immédiatement un éditeur. Il est très fâcheux. Il y a des centaines de... On écrit le poème et aussitôt on veut le faire entendre, forcément. Ou bien ça m'amènerait à aller dans une direction où je ne vais peut-être pas aller trop maintenant. C'est la situation sociétale, comme on dit, actuelle de la chose poétique, écriture poétique, audition poétique, qui est culturelle. C'est-à-dire la poésie, ce qu'on appelle la poésie, est assignée à une place. Il n'est pas vrai qu'elle n'ait aucune place, mais il n'est pas vrai qu'elle ait la première place. C'est-à-dire que dans un grand média, en France, en tous les cas, et même, je crois, partout ailleurs, dans un grand média télévisuel, journalistique, vous n'avez pas la poésie. Ah, alors, les poètes souvent se plaignent. Mais où ? Et alors, où est-ce qu'elle est ? Réponse, partout. Par exemple, nous entrons dans une saison printemps des poètes, le marché de la poésie, pour les Parisiens, Saint-Sulpice, le printemps des poètes, il y en a partout. C'est-à-dire, elle a sa place, elle est partout, si l'on veut. Henri Deluy avait relevé à un moment dans Action Poétique le nombre de publications de ce qu'on peut appeler œuvre poétique, c'est-à-dire qui est sur le marché d'une façon ou d'une autre. Il avait trouvé par an 40 000. Donc on peut, et c'est souvent l'occasion de vaincre une conversation, on peut dire la poésie n'a pas de place, on peut dire elle a toute la place. Elle a la place culturelle, elle est assignée à un certain rôle. Alors, la question du culturel, comment la traverser, comment, d'une certaine manière, à la fois profiter de ça, c'est ma situation. Je suis un fonctionnaire du culturel, comme tout le monde, en passant mon temps à dire du mal du culturel. Pas du mal, mais dire que ça n'est pas le but de la chose. C'est ça qui est très difficile. Bon, alors, ayant dit ces choses, puisque nous entrons dans une saison printemps des poètes, 15 jours, vous comprenez ce que je veux dire. Je me rappelle une fois, parce que j'ai passé une partie de ma vie chez Gallimard, Pierre Nora, illustre historien et éditeur fantastique, avait créé et continue à exister, une revue qui s'appelle Le Débat. Le Débat. La poésie est-elle dans le débat ? D'une certaine manière, non. Non, non. Et dans les, par exemple, en ce moment, dans l'arène politique et disons un débat, est-ce que la poésie ou la poétique entre dans le débat ? Réponse, non. Moi, je peux dire ça brutalement maintenant ici. Mon affaire, c'est d'essayer de faire entrer la poétique dans le débat. On terminera peut-être par la question écologique, si vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit une fois récemment, en prenant un mot de Malraux et en le déformant, le 21e siècle sera poétique ou ne sera pas. On prétend que Malraux a dit le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Bon, je transforme en sera poétique dans un sens, on peut dire. Et on oublie toujours le ou ne sera pas. Ça veut dire qu'il peut ne pas être pris au sérieux. Mais oui. Alors, dire quelque chose, que faut-il que soit la poésie pour que le propos que je viens de dire ne soit pas ridicule ? C'est ça la question. Ça peut être ridicule. Le 21e siècle sera poétique ou ne sera pas. Je dis des conneries. Non. Alors la question, c'est que faut-il, en style philosophique, que faut-il que soit ? À quelles conditions ? Que faut-il que soit la poétique ? Si pour poétique, j'englobe poésie, poème, poétique, là, pour que ce propos, le 21e siècle, sera poétique ou ne sera pas, ne soit pas simplement ridicule. C'est-à-dire prendre la poésie au sérieux. Poétique au sérieux. Voilà. C'est ça qui m'amène, je le dis aussi, à prendre ensemble écologie et poétique. Donc c'est une certaine impression, une certaine vue sur le terrifiant, le menaçant, l'imminent, ce que j'appelle aussi parfois, on va prendre un terme heideggerien, la dévastation. Que j'emploie souvent les mots déterrestration et extraterrestration, ce qui menace la Terre, tout la planète. La planète s'en fout complètement. Comment ?
Ça me fait penser au poème de T.S. Eliot, The Wasted Land.
Oui, d'accord. N'oubliez pas que T.S. Eliot, c'était avant. Avant ce qui s'est chaîné depuis peu d'années, que Stigler appelle la disruption, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant, et dont Eliot n'avait aucune espèce d'idée.
Oui, bien sûr.
Eh oui. Alors, écologie et poétique, ça veut dire que l'écologie, c'est une logie. Philologie, géologie, écologie, géographie. Non, pas enfin, peu importe. C'est une logie. C'est donc en logos, c'est une logie. Et il s'agit de oikos, qu'on peut traduire par habiter, wohnen, dans les romantiques allemands. Mais il faut faire attention aux romantiques. Attention, question. Habiter poétiquement, dichterisch wohnen der Mann. Alors, dire, ah oui, il faut habiter poétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter poétiquement ? C'est ça la question. Alors, c'est pas pour être dans une hutte avec Heidegger en Bavière le retour à la... C'est pas un retour à la Terre. La terrestration dont il s'agit n'est pas un retour à la Terre, c'est une invention de la Terre. Et j'ai dit au passage très vite, parce que le langage est ici très souvent confusionnant. Il ne s'agit pas de la planète. Dès que vous ouvrez la télévision, c'est-à-dire tout le temps, ou bien un écran quelconque, vous entendez la planète, c'est non. La planète, à proprement parler, planès, planétès, la planète de Parménide, la planète, elle s'en fout complètement. C'est un bolide cosmique qui roule depuis quelques milliards d'années et qui, dit-on, en a pour quelques milliards d'années. Donc la planète, ça n'est absolument pas la question, c'est la Terre. Alors du coup, la question intéressante devient pourquoi, au lieu de dire la Terre, on dit tout le temps la planète. Parce que si on dit tout le temps la planète, ça veut dire quelque chose, puisque ce n'est pas la planète dont il s'agit. Ça veut dire que la Terre est vue depuis, non pas même les 11 000 mètres ou 33 000 pieds de l'avion, ni même du satellite, mais elle est vue que depuis, on va dire, le cosmique, l'univers. Donc, c'est déjà, au fond, quand on dit la planète, on est déjà dans l'extraterrestration. L'homme est un extraterrestre, il se fait extraterrestre. Il n'y a pas d'extraterrestre. Mmh. Les extraterrestres, c'est les hommes, dans la mesure où ils montent, n'est-ce pas ? Ils vont Mars et la suite. Et donc, de là, ils voient « Blue is the planet », disait je ne sais plus qui, la planète est bleue. Mmh. Alors, le thème de l'écologie, c'est « The planet is blue, but the world is green ». Alors, qu'est-ce que veut dire « The world is green », le monde ? Vous voyez, j'insiste un instant parce que tout, comme toujours, est une question de terminologie. Mmh. Alors, si on entre dans les difficultés de pensée, c'est-à-dire de l'écologie, il faut la prudence nominaliste, c'est-à-dire il faut distinguer terre, planète, environnement, etc. L'écologie n'est pas du tout une affaire d'environnement, Umwelt. L'environnement, c'est pour les animaux. C'est le milieu.
Le territoire. Le territoire proche. Ah,
territoire, attention, parce qu'il y a terre dans le territoire, c'est intéressant. Non, mais l'environnement, c'est simplement, c'est que si vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. Si vous mettez l'oiseau, il y avait un poème de Charles, La Mouette et le Requin, hein, si vous mettez un oiseau dans l'eau, il meurt. L'homme s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'il est le maître de tous les environnements, il descend aussi bas qu'on veut, il monte aussi haut. Hein. Il a justement dominé tous les environnements, mais le monde. Welt, je dis allemand parce que c'est ça a à faire beaucoup avec Heidegger, Huxkull et tout ça. L'environnement, l'animal, un environnement. Les hommes sont-ils simplement maîtres de tous les environnements ? Non. C'est-à-dire que le monde n'est pas la somme des environnements. C'est ça l'écologie. Vous comprenez ? Alors, mais c'est une pensée écologique. Dans quelle mesure, avec l'habité oikos, il est question de cette pensée là que je tâtonne, qu'on a peu appelé en même temps poétique, c'est la logie de l'écologie a à faire avec une poétique, je pourrais dire ça comme ça. C'est ça le... Bon, j'ai été trop loin, mais c'est la fin de notre conversation pour vous dire mes intérêts.
D'accord.
Autrement dit, en quoi consiste l'opération poétique ? Parce que c'est une opération. Je voudrais être... Je vais vous raconter biographiquement, autobiographiquement, une histoire qui peut le faire entendre. Le rapprochement n'est pas du tout, ne consiste pas à prélever une partie réelle de quelque chose de réel qui serait en commun avec une autre. L'induction, comme disent les philosophes, c'est-à-dire, oui, il y a en commun entre ce et ça que, par exemple, une certaine teinture bleue. Ah, c'est bleu. Le bleu appartient aux deux, donc je fais le rapport par le bleu. C'est pas ça du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'Éluard disait la terre est bleue comme une orange. Alors, ce que je veux dire, c'est le rapprochement consiste à homologuer, homoïone, à faire rentrer, à approcher deux choses qui sont éloigné, si l'on veut, c'est-à-dire que c'est l'invention du poète qui va montrer leur proximité, en ne prélevant pas une partie commune qu'on pourrait percevoir, mais en inventant ce qui subjugue les deux. Homoïone en grec, en les mettant sous un terme, qui est justement l'invention, qui opère le rapprochement, qui fait que ces choses, si on ne se trompe pas, attention, poème peut dire tout le temps n'importe quoi, mais si l'opération réussit, c'est un rapprochement qui va compter. Alors, pour me faire entendre dans ce que je travaille, je vais vous raconter l'histoire suivante. C'est un moment où que je passe assez longuement devant la Pietà de Michel-Ange.
À l'entrée à droite.
À l'entrée à droite, qui à l'époque n'était pas sous verre. Il y a Crétin qui a tiré dessus, je ne sais pas si vous
rappelez. Non, qui a donné un coup de marteau sur le jeu.
Donné un coup de marteau. Alors du coup, le propre d'une sculpture, c'est qu'on peut tourner autour d'un groupe sculptural. Maintenant, c'est fini parce qu'il y a des verres. Bon, alors, et le poème dit ceci. Dans la Pietà, c'est-à-dire cette Vierge qui a le corps du Fils sur ses genoux, il y a, je ne sais plus ce que je dis exactement, il y a une chiffonnière. Je fais un rapprochement, si vous voulez, entre la chiffonnière que je vois en sortant l'homme qui est là, avec qui étend ses étoffes et tout ce qu'il a de précieux sur ses genoux, et la Pietà, comment elle s'appelle, Rondanini, enfin, la Pietà Michel-Ange. Bon,
c'est une autre Rondanini, je crois.
Alors, ensuite, quelques années après, je fais ce travail avec Baudelaire, que j'appelle la Pietà Baudelaire. La question dans Piété, Pitié, qu'est-ce qui fait que c'est la même chose? Et je fais un rapprochement, si on peut dire, inouï, c'est-à-dire, je fais un rapprochement entre le corps mort et l'espace. C'est-à-dire, qu'est-ce que déplie la Vierge sur ses genoux, si c'est une femme? C'est l'espace, elle l'étend, elle ouvre l'espace. Donc, si vous voulez, le rapprochement ici consiste à prendre quelque chose qui s'appelle la Pietà, c'est-à-dire une vierge chrétienne, une femme avec son fils mort. Et le fils étant étendu sur ses genoux, c'est comme si, c'est-à-dire, elle ouvrait l'espace. Donc, c'est ça, vous comprenez, c'est un rapprochement audacieux, de dire la pitié, c'est l'espace. Comment, quoi? C'est ça l'opération poétique. Alors, pousser plus loin, ça donne société. Dans quoi vivons-nous actuellement? Nous vivons ceci, que des dizaines de milliers de femmes sont dans des déserts, expulsées tous les jours, avec leurs enfants qu'elles ouvrent, l'espace. Donc, le rapprochement en question à arriver à aujourd'hui, ça serait de prendre ensemble la Pietà, hein, dans cette figure, c'est une figure. C'est donc, il ne s'agit pas ici d'une croyance, comment dire, de type religieux. C'est une figure. La figure, c'est l'ouverture de l'espace dans le rapport mère-fils. En passant par Baudelaire qui dit « Que pourrais-je bien dire à cette impieuse ?» De sorte que je demande qu'est-ce que c'est que la Pietà de Baudelaire ? Pitié, piété, etc. Bon. Et aujourd'hui, que voyons-nous tout le temps ? Et nous ne voyons rien d'autre. Des dizaines, des centaines de milliers de mère dans le désert, c'est-à-dire ouvrant avec les fils répandus sur leurs genoux. Et dans... Vous comprenez, c'est ça l'opération poétique, c'est-à-dire à la fois un rapport à une œuvre, un poème qui essaye de se faire, et une vue sur aujourd'hui, l'étendue aujourd'hui, l'espace, le désert, etc., etc. Bon, j'ai été à vite, mais c'est pour faire comprendre qu'au fond, c'est pour ça que la poésie, la poétique peut entrer dans le débat si elle arrive à faire voir ce que j'appelle d'ailleurs une figuration ou une transfiguration.
Et on pourrait le dire d'ailleurs d'autres œuvres, d'ailleurs, d'autres œuvres d'art.
Bien sûr, il faut. Alors attention, là c'est très important. C'est-à-dire, c'est ce que l'allemand entend bien ça, parce que le Dichtung, ce n'est pas la poésie ou le poète, c'est l'art. On va dire, l'art. Mm. Est-ce que l'art a encore aujourd'hui une possibilité de cet ordre qui fait que le monde serait habitable, non pas réhabitable comme il l'a été, mais habitable, attention, hein, habitable. Il y a une phrase de Baudelaire que j'avais repérée dans son texte abominable contre les Belges, où il dit vraiment, et donc quelques mois avant sa mort, il dit « Le monde m'est devenu inhabitable ». C'est très étrange, parce que on croirait que c'est du romantisme allemand, le monde habitable, le monde m'est devenu inhabitable. Alors, on peut le prendre aujourd'hui. Et notre aujourd'hui n'a rien à faire avec le romantisme. C'est ça la difficulté. N'a rien à faire. C'est tout à fait un autre monde. Mais nous pouvons nous poser la question, comment garder, inventer une certaine habitabilité du monde? Sans quoi, c'est la déterrestration.
Merci.
Merci bien. Merci.